Donc nous allons continuer avec 30 minutes de méditation assise. Donc ce sera la dernière méditation assise pour cette journée. Puis après on aura la possibilité d'une longue discussion pour parler de ce qui vous concerne, ce que vous voulez, plus d'élucidation, etc. Et pour cette méditation, un peu de se faire confiance. Je pense que ce qui est très important par rapport à la méditation, c'est l'attitude qu'on a par rapport à comment on fait cette méditation. Et donc, ce qui est très important pour la méditation, c'est vraiment une attitude bienveillante envers soi-même quand on l'a fait. Ça, c'est très important. Et donc, de faire un petit peu attention à une certaine attente ou à une certaine idée qu'on se fait de comment on devrait être quand on médite, ce que l'on doit faire, parce que je pense que ce que l'on a pu voir aujourd'hui avec notre exploration de la tonalité du ressenti, c'est qu'en fait, il n'y a rien qui n'apparaît dans notre méditation qui ne peut pas être un sujet d'attention bienveillante et qui ne peut pas nous aider à apprendre quelque chose, à être conscient de quelque chose, que ce soit les sensations, que ce soit les sons, que ce soit les pensées. Et donc, je vous encouragerai pour cette dernière méditation, est-ce qu'on peut un peu mettre l'accent, quand on fait la méditation, de l'idée vraiment, c'est de nous aider. Donc, on n'est pas dans une sorte de compétition avec soi-même, de compétition avec le passé. On est vraiment dans une sorte on se tourne vers quelque chose. Donc on va utiliser toutes ces choses dont on a parlé aujourd'hui, l'ancrage, la vision pénétrante, mais d'une façon bienveillante, d'une façon accueillante. Et donc un peu aussi de se faire confiance que je vous suggère différentes choses. Alors quand on médite, on peut toujours soit faire quelque chose de défini, maintenant je fais les phrases, maintenant je suis conscient, consciente de la respiration, où on peut en fait faire confiance à l'intention. L'idée, c'est pas de juste être obnubilé par les phrases ou par la respiration, mais c'est comme si on utilisait l'ancrage de la respiration, des sons, du corps ou des phrases, comme une façon de poser cette attention d'une façon bienveillante. Ça, c'est très important. Donc, quoi qu'on utilise, ce n'est pas très important. Ce qui est vraiment important, c'est on se tourne avec bienveillance vers cet ancrage. Et après, on essaie aussi un petit peu d'être conscient du changement, ou on peut travailler sur le changement, en fait, en faisant les phrases. Parce que les phrases vont, ce qui va être intéressant, ça va un peu, souvent, changer la tonalité. Et donc, la seule chose que je suggérerais, à part cette bienveillance, pendant cette méditation qu'on va faire de 30 minutes, c'est un peu de temps en temps, pas tout le temps, nous ne sommes pas des radars détecteurs, mais c'est une exploration. Donc, de temps en temps, vous pouvez remarquer par rapport à la tonalité du ressenti, si je suis avec cette attention bienveillante, si j'ai cet ancrage bienveillant, si j'ai ce regard qui va à l'intérieur de l'expérience avec bienveillance, est-ce qu'il y a un certain ressenti? Et donc, c'est ouvert. Je ne dis pas qu'il y a ce ressenti ou celui-là, mais juste de remarquer un petit peu qu'est-ce que je ressens si je suis dans cette attitude, dans cette attention bienveillante. Donc, si on trouve une posture relativement confortable, soit on s'oriente vers quelque chose de défini, défini et spécifique, comme l'ancrage de la respiration, ou les sensations dans le corps, ou les sons, ou on s'ancre dans les phrases de la joie appréciative et altruiste. On peut faire confiance à son attention, qui va peut-être commencer par la respiration, puis peut aller à la posture, puis peut s'ouvrir au son avec cette attitude bienveillante, et peut-être finir par les phrases si naturellement elles montent, ou si la qualité a l'air d'être là. On va finir avec un peu de méditation debout. Donc, on se lève doucement, doucement, comme vous pouvez. Là, on va se mettre debout comme on peut, doucement, et juste être conscient. Soit on est assis par terre et on est conscient juste de son corps assis par terre, soit on est levé, on est debout. Et est-ce qu'on peut être conscient de son corps en entier qui se tient debout après cette période de méditation assise? Et la tonalité du ressenti en contact avec ce corps. Doucement, on va bouger d'un côté, de l'autre, et de nouveau, quand on bouge comme ça, qu'est-ce qu'on ressent? Après, on peut s'étirer un petit peu. Et après, on peut trouver une position aussi confortable que possible pour la discussion. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Est-ce qu'on peut être dans une tonalité sans objet?
Oui, on peut être dans ce qu'on pourrait dire une tonalité générale. Et je pense que c'est un petit peu ce qui se passe. Si on est dans un état de pleine conscience bienveillante ouverte, et là on a une tonalité très générale. y a ça. Et il y a aussi le fait que les tonalités peuvent converger, dans un sens. Et donc, on peut avoir une tonalité générale. Alors, des fois, on peut avoir tonalité agréable, générale, parce qu'un point était plus agréable, tout converge en même temps, et il y a ce sentiment de bien-être, on pourrait dire. Ou il y a un point qui tout converge sur quelque chose de très désagréable, et alors on aura cette impression générale que tout est désagréable, même si tout ne l'est pas, c'est comme si. Et il y a donc il y a ces convergences, on pourrait dire. Et puis il y a aussi, je dirais, un état qu'on ressent souvent, par exemple à la fin d'une méditation, que vous avez peut-être ressenti quand on était debout, il y avait un ressenti général qui était, je dirais, un peu neutre, mais avec peut-être un petit peu d'agréable dedans, mais qui était très général et qu'on ne peut pas fixer à un point précis.
Moi, j'ai expérimenté que la neutralité, quand elle est associée à une sensation physique, c'est pour moi, ça s'associe à quelque chose d'assez stable, d'équilibré, qui tend plutôt vers une tonalité agréable. Et par contre, quand tu nous as proposé d'explorer cette notion de mudita qui veut dire joie, ça m'a complètement bloqué, un peu comme si, bon, bah, puisque c'est de la joie, je peux sentir de la joie, mais je ne le ressens pas du tout, c'est assez neutre. Et du coup, cette neutralité me semblait plutôt, plutôt un peu désagréable, quoi.
Voilà, alors ça, c'est un peu la difficulté quand on introduit les qualités de la bienveillance, de la compassion, de la joie, de l'équanimité, c'est qu'il faut vraiment... Alors là, j'ai essayé de voir. C'était vraiment une exploration. Si je pars dans les phrases, est-ce qu'il va y avoir un ressenti agréable ou pas? C'est vraiment une exploration que vous avez faite. Et l'idée, parce que vraiment l'idée de ces méditations, c'est une orientation. Donc c'est en fait plus la cultivation, la pratique d'une intention qu'on veut amener dans la vie quotidienne. Et donc ça ne veut pas dire que quand on fait les phrases, on va nécessairement être joyeux. Après, il y a toujours la question, qu'est-ce que c'est la définition, l'expression, le ressenti quand on est joyeux? Alors ici... Il y a un petit problème de vocabulaire, parce que ici on pourrait presque parler de joie appréciative, de joie altruiste. Et donc nous, en français surtout, si on dit la personne est joyeuse, immédiatement on pense à quelqu'un où il y aura quand même un petit peu d'excitation, un petit peu de feu d'artifice, on pourrait dire. Et je pense que là, quand on parle de cette joie appréciative altruiste, c'est vraiment plus, ça se tourne plus vers le contentement. Mais pas un contentement qu'on associe souvent à une sorte de résignation, mais un contentement qui est vraiment, qui a une certaine qualité d'appréciation. Et donc, je pense que c'est ça qui est intéressant par rapport à cultiver mudita. Pour moi, c'est vraiment un antidote. Donc, ce n'est pas nécessairement pour être joyeux, se sentir joyeux, mais plus pour, dans un sens, un antidote à l'envie. Ça, je pense que c'est important, qui va aussi changer l'équilibre par rapport au ressenti agréable ou désagréable. Si on se focalise sur tout ce qu'on n'a pas, c'est différent que si on se focalise sur ce que l'on a, on pourrait dire. Et aussi, de voir vraiment, je pense que c'est là que Thich Nhat Hanh a une pratique, enseigne une pratique intéressante, parce que beaucoup de ses pratiques, c'est l'appréciation du potentiel humain, l'appréciation des autres. Et de nouveau, il y a une qualité qui est différente que si on dit « je devrais être joyeuse ». Donc je pense que c'est aussi ça, qu'est-ce qu'on est en train de ressentir. Et après, il y a aussi la question, Est-ce que c'est une tonalité de ressenti qui est imbibée de clarté? Et donc, c'est un peu ce dont vous parlez par rapport au neutre. Le neutre avait cette un peu imbibée de clarté, de stabilité, d'équilibre. Il allait un peu vers cette notion d'agréable, bénéfique. Mais si vous introduisez la perception en termes de l'attente, que si je pratique la joie, je dois être joyeuse, et qu'est-ce que ça veut dire d'être joyeuse? Donc il y a aussi le terme. Il est vrai que le terme joie, peut-être on devrait utiliser quelque chose de différent, mais en même temps, moi je trouve que c'est important de parler de joie dans le sens que souvent la spiritualité, la méditation bouddhique est présentée comme il faut souffrir, donc ça, c'est aussi un peu pourquoi j'aime utiliser le terme. Et oui, c'est un point important avec la façon dont on utilise le mot joyeux, l'attente que ça va nous donner par rapport à ça. Oui.
Oui, alors, j'ai du mal, quand je médite régulièrement à la maison ou autre, à être dans le ressenti des émotions, je pense surtout aux émotions, ça en fait partie de la tonalité, sans partir dans le mental. Alors, j'accueille. Bon, alors, si c'est agréable, ça va. Si c'est désagréable, on est dans un ressenti désagréable. Et de ne pas partir dans l'analyse mentale. Alors, on m'a longuement parlé de plonger dans la vision profonde et intuitive du ressenti et qu'il y aurait une espèce d'intuition qui arriverait. Moi, je ne le vis pas vraiment. À la limite, oui, je vois une impermanence et je vais réussir peut-être ou pas à équilibrer, à stabiliser dans le quotidien. Mais je veux dire que en fait, il y a deux questions. Quand ça part dans le mental, l'analyse, et puis c'est reparti. Donc là, c'est... Et puis cette espèce de vision profonde, intuitive et claire. Je veux dire que pour moi, ça reste des mots et que j'ai énormément de mal avec, je ne vais pas dire ce truc-là, mais avec cet élément de la pratique, on va dire, pour parler.
Voilà, alors. C'est plus facile. Alors commençons par le premier point. Quand on parle des quatre piliers de la pleine conscience, en fait, les trois premiers, mais le dernier, vraiment, il y a plein de listes et tout ça, mais les trois premiers, en fait, c'est, on pourrait dire, ce qui est le plus facile à travailler avec, à regarder, mais en fait, ils sont ensemble, on pourrait dire. Et on est en train de dire, bon, il faut regarder là, mais en fait, c'est une expérience, on pourrait presque dire, concomitante. Donc, le corps, donc on veut essayer de être un peu moins dans le commentaire, la signification, le mental, mais on va être dans le corps, qu'est-ce que je fais l'expérience dans le corps, comment je suis avec mon corps, etc., etc. Après, il y a le ressenti, qui est cette tonalité agréable, désagréable, neutre, qui va nous faire un déclic, parce que c'est ça qu'on regarde vraiment avec la tonalité, c'est comment ça fait un déclic ou pas, comment ça nous entraîne ou pas. Et la troisième est très intéressante parce que c'est par rapport aux états mentaux. Mais en fait, dans le bouddhisme, quand ils parlent d'états mentaux, ils sont en train de parler d'états émotionnels. Mais tout, dans un sens, s'imbrique. Parce que quand on ressent quelque chose, on le ressent à la fois dans les sensations corporelles, on le ressent à la fois avec les pensées, et on le ressent à la fois d'une façon émotionnelle qui est un peu différente, mais qui est dans le physique aussi. Alors, ce qu'on peut faire avec va totalement dépendre du niveau. Parce que si... C'est léger. Si c'est léger, vous êtes assis et vous pouvez faire facilement ce que j'ai recommandé. Combien de temps ça va durer? Donc, on est avec. Et si on fait rien avec, généralement, ça passe. Et en fait, là, vous avez fait le truc de l'intuition profonde. Enfin, c'est toujours problématique d'appeler quelque chose l'intuition profonde. Donc, ça veut juste dire... Vipassana veut juste dire regard à l'intérieur. Alors on le traduit par regard profond, mais c'est plutôt d'aller à l'intérieur. Parce que c'est comme si on intensifiait le regard. Donc Et donc, si on regarde, ok, je m'ancre dans mon genou. Donc, l'ancre, je vais là. La tension va sur le genou, ça c'est l'ancrage. Je reviens au genou, ça c'est l'ancrage. Mais ce regard profond, ce regard qui va à l'intérieur, c'est au lieu de, d'être là, ah, c'est mon genou, il est comme ci, il est comme ça, il est là, on va essayer de voir si on peut aller à l'intérieur du genou et ressentir ce qui se passe. Alors, la plupart du temps, si tout va bien, vous ne ressentez rien dans votre genou, donc il n'y a pas grand-chose à voir. Ça, c'est pour le genou. Alors, si on est assis et on regarde son pied ou on regarde son genou, si on a pas mal, généralement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc, ça va être relativement neutre. Mais si on regarde là où, généralement, on va ressentir ses émotions, on va généralement, si on ne ressent rien, enfin, si tout va bien, ou on va peut-être un petit peu contentement, un petit peu de joie, ou si quelque chose se passe qui est désagréable, on va ressentir quelque chose qui va être plus de l'ordre physique, émotionnel, intérieurement. Et ça peut se manifester selon ce que c'est, comme un petit serrement ou un petit bout. Enfin, on va ressentir différentes choses. Alors, si c'est au niveau un peu habituel, répétitif, on peut commencer à reconnaître un petit peu comment c'est. Et on peut commencer à voir qu'est-ce qui se passe. Je ressens ça parce que j'ai eu cette pensée, ou je ressens ça parce que j'ai vu quelque chose, ou on ressent quelque chose et on n'a aucune idée pourquoi on le ressent, mais on le ressent et c'est désagréable. Il y a aussi ce truc, des fois, on sent « oh ». Et donc, si ça va aussi dépendre de comment vous vous sentez. Si vous êtes très fatigué et vous vous sentez mal, ça va être dur d'être avec. Si vous vous sentez assez énergétique et bien, je ressens ce truc, c'est intéressant. Et donc, ce regard profond va être fait d'une manière différente selon qu'on se sent bien, qu'on ne se sent pas bien. Et donc, je dirais, ce n'est pas tout le temps la même chose. Ça va dépendre des conditions. Et si vous êtes dans un état que j'appelle intense, alors là, ce n'est pas juste là que vous le ressentez, mais c'est comme si c'était là. Et donc là, on va plus, je dirais, de ne pas aller dedans, parce que c'est tellement là. Il n'y a pas d'intérêt à aller dans quelque chose qui est tellement là que si on y va, on l'intensifie en fait. Et là, vraiment, d'utiliser l'ancrage, mais pas pour arrêter le ressenti, mais pour créer de l'espace dans le ressenti, de telle sorte qu'on ne l'amplifie pas, ou moins. Donc, on va se sentir... Respiration... Respiration. Donc, on va faire un petit peu comme ça. Et après, on ne va pas juste être assis. Parce que si on se ressent dans un état intense, je ne suis pas sûre que d'être assis avec, c'est une bonne idée. Et donc, on peut faire la marche méditative. On peut aller s'allonger. On peut faire autre chose. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas voir ce regard profond comme la seule méthode à faire. Quoi qu'il arrive, je pense qu'il faut faire attention. C'est bien, je pense, pour les états légers. C'est intéressant quand on sent bien pour les états répétitifs, mais pas trop si on ne se sent pas bien et pas trop utile si on est dans un truc intense. Alors, si on est dans un truc intense et qu'on est un peu en train d'en sortir, parce que ça, c'est intéressant. On peut être dans un truc très intense, mais si on a fait un peu de méditation, à un moment donné, on va moins être dans « je suis cet état intense » et « ah, comment il est cet état intense ?» Et là, on peut observer qu'est-ce qui se passe dans le corps, qu'est-ce que je suis en train de me dire. Et là, souvent, il peut y avoir ce moment intuitif dans le sens de lâcher prise ou de compréhension. Moi, une fois, j'avais eu ça il y a beaucoup d'années. On était parti en voyage, enseigner, à l'autre bout du monde. Et je téléphone à la maison juste avant de commencer une retraite. Et ma mère me dit, on a été cambriolés. Bon, on est à 10 heures de vol. La famille est là pour l'aider, donc ce n'est pas la peine que je rentre. Et donc, je commence à enseigner la méditation et tout ça, Steven et moi. Et un jour après, donc après 12 heures, je me vois, je suis en train de faire une méditation guidée, et je vois que je suis en train d'avoir en fait deux circuits. Un circuit est, s'ils reviennent, je vais mettre une trappe, comme une sorte de d'attrape-souris, et je vais les avoir. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, hey, c'est un peu ridicule. Donc, c'est parti. Le deuxième, c'était sécurité. Je me suis dit, moi, je ne peux rien faire maintenant, je le ferai plus tard. Ce n'est pas la peine d'y penser. Et donc, il y avait quand même un moment où il fallait que je tourne avec. Et puis, comme j'étais moins investie, parce que aussi je faisais des choses et tout ça, après ce regard plus clair, oh, c'est ce que je suis en train de me dire. C'est pas la peine de le faire. Et à ce moment-là, souvent, on peut facilement lâcher prise et puis laisser le truc. Mais je pense qu'il faut quand même avoir cette acceptation qu'il y a un choc au système et que ça va... Et donc, de faire attention à cette injonction, quoi qu'il arrive, regard profond, non. Je pense qu'il y a la vipassana, regard profond, c'est en fait, on peut le faire de tellement de manières différentes. Il y a vraiment beaucoup de manières de le faire. Donc, c'est pas juste aller creuser à l'intérieur. Et après, de ce creusement à l'intérieur... C'est un peu le symbole de la mine où on trouve le diamant. C'est pas nécessaire. Parce que je pense que des fois, ce moment intuitif, c'est plus un moment de voir clairement ce qu'on pense et lâcher prise. Ou voir clairement qu'on se fait mal et de se dire, mais pourquoi je ferais ça?
C'est clair, merci. J'ai enfin compris. Merci.
Est-ce qu'il y a autre chose? Ou est-ce que vous êtes un peu fatigué de toute cette méditation et toute cette attention? Parce que c'est il y a l'écoute, le fait que vous m'écoutez très gentiment et attentivement la plupart du temps. Et aussi le fait que vous essayez de méditer, c'est quand même de l'énergie qu'on utilise. Donc on peut avoir un peu ce calme de ouf, on se pose, on a fait la méditation. Parce que s'il n'y avait rien d'autre, on pourrait s'arrêter là peut-être. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, c'est comme vous voulez. Parce que je sais aussi qu'il y a certains qui pourront rentrer chez eux facilement. Il y en a d'autres, je ne sais pas, s'ils sont sur le RER B Nord, ça, c'est pas fun. C'est pas fun. Le RER B Sud marche bien, mais pas celui qui va vers le Nord. J'ai vérifié. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir fait la pratique. Et puis, bien sûr, pour ceux qui vont peut-être nous quitter parce qu'ils ne peuvent pas revenir demain, on vous remercie, je vous remercie pour votre don dans la boîte qui va me soutenir, et merci de votre générosité. Et puis, pour les autres, on se retrouve demain. Donc, si demain on arrive à 9h, et puis on commence à 9h15, voilà.
On peut laisser les affaires ici,
voilà. Et puis bonne soirée.
Merci. 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 Merci.
Merci.